7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur les accros aux séries. Caroline Paré, dans ce studio, il y a quelques minutes, qui présente l'émission précédente, Priorité Santé, me disait, moi c'est ma résolution de rentrée, ne plus regarder les séries. Il faut dire que c'est quand même assez chronophage. D'ailleurs, on ne parle plus de séries télévisées, parce qu'avec les plateformes de téléchargement, on peut télécharger, y compris parfois illégalement, des séries en grande quantité, et les regarder en rafale des nuits entières. C'est ce qui s'appelle être accro aux séries. Des communautés se créent pour partager leurs passions, échanger des infos. Et surtout aujourd'hui, le choix est large. Les séries américaines bien sûr, mais norvégiennes, françaises, coréennes, brésiliennes, nigérianes, indiennes, la liste est très longue. Et ce qui a vraiment changé, c'est que l'offre est d'une incroyable diversité, du grand public au plus intello. Qui oserait désormais critiquer ce nouveau marché de la création? Alors si vous êtes fan de séries, bien sûr on attend vos témoignages sur vos séries préférées. Quelle place elles occupent dans votre vie? Est-ce que vous regardez le monde différemment? Les voisins et les voisines, appelez-nous, surtout dès maintenant. L'émission passe très très vite, pas en accéléré encore, mais 33 1 84 22 71 71. C'est également notre numéro de téléphone WhatsApp. Dans le studio avec nous, Pierre Langlais, bonjour.
Bonjour.
Vous exercez un métier terrible, journaliste spécialisé dans les séries télévisées, séries tout court pour l'hebdomadaire Télérama. Vous n'aimez pas qu'on dise accro aux séries, pareil?
Non, j'aime pas trop, parce que c'est négatif. Or, je pense que, comme toute bonne chose, on peut consommer un certain nombre de séries télé. Faut pas non plus en tomber malade et en regarder à longueur de journée. Je pense que rares sont ceux qui font ça, et il y en a plein qui adorent les séries télé, qui en voient beaucoup, qui ne sont pas pour autant maladivement addictifs, accrochés.
C'est pas de la coke, on est d'accord.
C'est pas de la coke.
On peut travailler et aimer les séries télé. Marie Baracco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du festival Série Série qui a lieu une fois par an, non pas à Cannes, mais à Fontainebleau, région parisienne. Et vous avez fait une première édition africaine du festival Série Série, c'était à Ouagadougou en février dernier. Prochaine édition, ce sera en 2019 dans une autre capitale africaine. Clément Combe est également avec nous, sociologue à l'université de Grenoble-Alpes, en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Isère. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous intervenez bien sûr quand vous le désirez. C'est comme si vous étiez dans le studio des 7 milliards. Et comme chaque lundi, un portrait pour l'Afrique qui gagne. Et aujourd'hui, elle aussi est une fan de série. Elle en a fait son métier, Angela Akeburu, 41 ans, togolaise, productrice de série, notamment Hospital IT. Et tout de suite, un message WhatsApp posté par un étudiant haïtien.
Bonjour, je suis Verto Cadet, j'étudie la psychologie à l'Université d'État d'Haïti. Les séries sont les plus grands ennemis de nos études. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai plein de leçons à étudier, mais je me trouve à regarder les séries, à passer toute la nuit dans les séries, bien que j'ai conscience que j'ai plein de travail à faire. C'est vraiment une addiction et c'est comme une drogue, ça, les séries.
Ah bah vous voyez, hein, quand même.
Ça peut arriver.
On salue tous les voisins en Haïti pour qui il est encore trop tôt pour nous appeler en direct, enfin, sauf ceux qui n'ont toujours pas décroché de la série commencée au début de la nuit. Le bien nommé Innocent à Cotonou, au Bénin, nous dit que sa série préférée c'est Prison Break. J'ai passé une nuit entière sur la première saison. Lee Joseph fait à Port-au-Prince, il nous dit qu'il peut regarder 6 épisodes de Game of Thrones d'affilée, 52 minutes x 6. Petit joueur. Franck à Abidjan lance un appel à l'aide. J'adore les séries d'investigation et d'action. Récemment, j'ai découvert la série The Walking Dead, science-fiction avec des morts vivants. Je peux la regarder de 9h du matin après mon petit déjeuner jusqu'à 2h ou 3h du matin. J'ai fini de regarder les 7 premières saisons. Je cherche la 8e en attendant la diffusion de la 9e. Pas encore sortie. Qui peut envoyer la 8e saison de Walking Dead à Franck?
Pas moi. Je trouve que c'est une série qui s'est effondrée. Elle était très bien avant. Maintenant, je ne la regarde plus.
Pourquoi?
Parce qu'ils ont trop tiré à la corde. C'est ça aussi, les relations avec les séries. C'est que ça ne peut pas durer éternellement. Et il y a des histoires qui s'effritent et qui ne sont plus aussi bonnes qu'elles étaient au début. Ça arrive très souvent. Et comme
ça tourne en
toute
rond,
bonne
c'est
chose,
ça
il faut savoir trouver la fin. Et une bonne bonne fin, c'est rare et c'est ce qui fait aussi une grande série.
Elisabeth à Montréal nous dit qu'elle est une adepte du binge-watching, littéralement s'empiffrer de séries. J'aime bien les telenovelas, il y en a de géniales, de vraiment nulles. Moi je regarde en version originale uniquement pour améliorer mon espagnol. Passion Prohibidad, je ne sais pas si je prononce bien, ou Donde Está Elisa, qui connaît ces séries ?
Pas moi.
Ça vous dit quelque chose ?
Bah non, mais les telenovelas, c'est pas une culture qui est très présente en France. Il y a maintenant une chaîne qui passe de la telenovela en permanence à la télé française sur le câble. Ça marche très fort dans certaines parties du monde, mais en France, on n'est pas encore dans cette culture-là. Quoi. Voilà, c'est une culture très particulière.
Babacar, au tchat, nous a envoyé un message sur WhatsApp.
Vraiment, j'aime beaucoup regarder les films-séries parce que ça m'aide à se comporter comme les gens de la film-série. Et ça m'aide aussi à découvrir des cultures nouvelles, à reconnaître le monde tout entier. Vraiment, je vous remercie et à bientôt, 7 milliards de voisins.
Bonjour le voisin, j'aime les séries où on trouve surtout les noirs américains. Il y a les séries que vraiment j'ai beaucoup admirées, c'est les séries Olivia Pope. Dans ces séries, vraiment, il y a quelques exemplaires politiques. Il y a le comportement du régime gouvernemental. Il y a des choses qui nous donnent exemple aussi, comme le pays africain le vive. Merci beaucoup le voisin.
Ça c'est Toussaint en République démocratique du Congo qui postait ce message. C'est scandale, hein, série à laquelle il faisait allusion avec l'héroïne noire américaine Olivia Pope, donc qui est une dans la série, qui est une spécialiste réputée en communication et gestion de crise où il y a des intrigues policières
et politiques à la Maison Blanche, oui bien sûr.
Les séries reflètent-elles finalement les modes de vie des habitants ? On peut se poser la question parce que évidemment en dehors des séries de science-fiction. Ça va de soi, mais Clément Combes, est-ce que c'est une bonne manière de comprendre comment fonctionne un pays où on est très éloigné ?
Alors, peut-être que M. Langlais pourrait mieux répondre que moi à cette question, mais effectivement un des éléments qui a favorisé l'essor des séries ces dernières années, c'est un aspect de plus en plus réaliste des séries, avec la possibilité aussi d'aller dans le politiquement incorrect, qu'ont pu se permettre aussi un certain nombre de chaînes de producteurs venus du câble, notamment américains, je pense à HBO. Et donc effectivement, par là, on peut avoir accès à des cultures, à la réalité de mondes sociaux. Je pense par exemple à The Wire, dont je ne sais plus qui disait que c'était une espèce d'œuvre à la Balzac contemporaine.
Sous-entendu finalement, là je m'adresse à vous Pierre Langlais, sous-entendu plus on est dans le politiquement correct, dans le débat public, plus les séries pourraient aller loin dans l'impolitiquement correct ?
Je ne sais pas si elles peuvent aller loin dans l'impolitiquement correct, mais elles peuvent questionner l'état du monde et l'état des pays en particulier. David Simon, le créateur de The Wire, qui a fait d'autres séries depuis, qui a revisité l'Amérique, qui est un auteur très politique, a un point de vue et un regard sociologique. The Wire est une série qui est étudiée dans les grandes universités américaines et je crois que ce que disait
on
votre...
On va redonner le pitch comme disent les Américains.
Ça s'appelle Surécoute en langue française, en français, et c'est l'histoire de la ville de Baltimore en fait. C'est l'histoire d'un combat entre les flics et les dealers, pardon, et à travers ce combat-là, le fonctionnement de la ville, de l'éducation,
de la
justice,
de
etc. Alors, qui est en grande majorité évidemment une ville noire américaine, mais il y a aussi des personnages blancs. Et donc, comme disait votre auditeur, il y a cette capacité, non seulement qu'ont les séries de nous montrer le monde, mais il disait aussi de nous montrer nous-mêmes. Ouais. C'est-à-dire de tendre un miroir, et c'est moi je trouve fascinant qu'une série américaine puisse éclairer sur la réflexion sociologique et politique d'un Africain.
Ouais, en tout cas, il y a forcément de l'universel dans les séries, sinon comment cela pourrait cartonner à travers les frontières, gagner à Cotonou nous dit qu'il déteste les telenovelas qui sont, selon lui, parfois à l'origine de la dépravation des mœurs et de la baisse du niveau des écoliers et des élèves. Loin d'être un divertissement, elle n'apporte rien de bénéfique. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, en direct. N'oubliez pas, ce numéro de téléphone est aussi le téléphone WhatsApp.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Mais tout de suite, écoutez le témoignage en France de Marine, 30 ans, fan de séries télé depuis son enfance.
Everybody drop whatever the hell it is you're doing and hand your time cards into my secretary. And if they are marked 1 second late, I swear to God, you will never be fake associates in this town again.
Alors là, c'est Suits, c'est la série que je regarde en ce moment. C'est une série sur, qui se passe à New York, sur deux avocats. Et il y en a un des deux, en fait, qui n'a pas son diplôme, qui n'a jamais passé le barreau.
Donc c'est l'histoire d'une usurpation, en fait, d'une supercherie.
J'ai commencé à regarder parce qu'il y a eu le mariage royal de Meghan et Harry.
Le couple princier britannique. Hein.
Meghan, en fait, joue dans cette série-là, donc ça m'a donné envie de regarder. Une fois que je commence, si j'aime bien, c'est dur de dire au bout de 3 épisodes « Oh non, je vais arrêter ». Donc là, ça fait 2 mois, j'en suis déjà à la saison 5. C'est un peu gênant, mais c'est pas grave.
Parce que ça veut dire que vous regardez avec une fréquence importante.
Pour le coup, je fais vraiment du binge-watching, ce qu'on appelle le binge-watching, de regarder 3, 4, 5, 6 épisodes à la suite. Hier, je suis rentrée en disant, j'étais avec des amis, oh, je suis fatiguée, donc moi, je sors pas avec vous en boîte. Et je me suis couchée à 3h du mat. Je suis rentrée ici à 23h. Je me dis, c'est le dernier. Et en fait, là, bah forcément, ils sont très, très bons. Surtout, je regarde beaucoup de séries américaines. Ils sont quand même assez bons là-dedans. Et à la fin, hop, un cliffhanger, quelque chose qui nous met un peu en...
En haleine.
Ouais, exactement.
Votre règne est terminé.
Mon règne ne fait que commencer.
C'est quoi votre petit rituel ?
Seul, je mets mon ordi, je mets les dans le canapé, les pieds sur la table basse, l'ordi sur moi. Un bol de houmous à côté, enfin un truc à grignoter, et c'est parti. Même si je fais le ménage, j'ai mon ordi pas très loin. Enfin, je peux même l'emmener dans la salle de bain. Bon, c'est un peu gênant, mais je peux l'emmener dans la salle de bain, et si je me lave, je garde l'ordi aussi qui diffuse la série. Oui, c'est un peu too much. En fait, il y a des séries que j'ai tellement vues, j'ai même plus besoin de regarder l'image. Mais clairement, maintenant, ça va mieux. Il y a une époque où je m'endormais systématiquement avec une série. Et il y a une époque aussi, encore avant ça, avant celle-là, où dès que je me réveillais, je regardais une série, en petit déjeunant. Puis il y a un côté doudou, mais quelque chose que j'ai développé très tôt avec la série. C'est pour ça que je me dis pas accro, pas accro. Depuis que je suis toute petite, c'est dans mon univers. Enfin, à la limite, c'est plutôt les autres. On me disait, ah bah oui, moi, ce week-end, j'ai fait ça, j'ai lu, etc. Je me dis, ouais, faut peut-être qu'à un moment donné, j'ouvre aussi un bouquin, en fait, que j'arrête d'être devant mon ordi. Moi, je ne lis pas. C'est pas la même façon de consommer une histoire.
Parce que comment ça a commencé, l'amour des séries ?
Mon père était... en fait, lui aussi aime beaucoup les séries, la télé, etc. Donc, il regardait à la maison Jimmy, quand j'étais petite. Bon, en fait, il regardait Seinfeld, notamment, et il rigolait. Il rigolait beaucoup.
À chaque génération, une tueuse vient au monde.
Si on commençait par... Salut, je m'appelle Buffy.
Alex.
Cordelia. Willow, c'est ça ?
Monsieur Giles.
Angel.
Et après, il y a eu plein d'autres rituels. Il y a eu la trilogie du samedi sur M6, ça c'était notre enfance avec Buffy, avec Charmed, avec The Sentinel, le Caméléon, avec Dark Angel aussi. Non, c'est pour ça que moi par exemple je suis vachement moins film, j'aime pas, ça dure longtemps, puis en plus après on voit plus jamais les gens.
Les personnages.
Oui, les personnages. Puis c'est drôle, il y a un truc d'âge. Par exemple, Friends, quand j'étais petite, ils étaient bien plus vieux que moi. Et là, c'est vrai que si, quand je les regarde, dans les premières saisons, si je regarde les premières saisons, moi maintenant je suis plus vieille qu'eux. Friends, je pense que j'ai vu, mais je sais pas, mais 10 fois chaque saison. Enfin bref. Donc.
Je les connaissais par cœur alors.
Ouais, je les connais par cœur. C'est vrai que, en fait, je dis ça, mais ce matin j'ai décidé de plein de résolutions en disant bon, maintenant chaque week-end on va faire une activité culturelle, je vais lire. Je vais arrêter les écrans, etc. Et les séries, c'est juste 2 fois par semaine. Bon, on verra.
Pierre Langlais, vous êtes exaspéré par le témoignage.
Non, je suis à la fois complètement d'accord avec elle sur les séries qu'elle a citées, etc. Et depuis quand les séries ne sont pas une activité culturelle ? Mais il faut arrêter d'avoir ce regard sur la série.
Donc vous
télé.
Tenez à la
c'est
rassurer.
C'est un art, absolument. Alors après, c'est bien aussi d'avoir une existence à côté. Mais elle dit 2 fois, ouais, c'est
les
gênant.
Les journées
n'ont que
24
gênant.
Heures, hein, néanmoins. C'est vrai que c'est oui. Difficile d'être accro aux séries,
c'est pour
de
ça
regarder
qu'il faut choisir.
Beaucoup de séries et de lire en même temps.
Il faut choisir celle qu'on veut voir. Si on veut tout voir, évidemment, c'est difficile d'exister.
Et pour ça, il faut lire, évidemment, les critiques de Télérama qui sélectionnent les meilleures séries. Clément Combe, vous qui êtes sociologue des séries, il y a toujours eu des fans de séries. Comment a évolué la façon de regarder ces séries ?
Alors, il y a toujours eu effectivement des fans de séries, des amateurs ou des spectateurs qui aimaient telle ou telle série. Et ça date depuis le début de la télévision et même avant, quand on avait affaire aux radio feuilletons, etc. Donc on redécouvre un petit peu l'eau tiède, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un essor, un boom depuis ces dernières années, mais quand même, on a toujours été, disons, la série, le feuilleton a toujours été un programme phare de la radio puis de la télévision. Là, ce qui s'est passé récemment, c'est que notamment les possibilités de sortir du flux télévisuel. Donc on parle là de consommation délinéarisée, donc l'arrivée du DVD, du DivX, le téléchargement sur Internet, le streaming, etc.
Donc le visionnage à la demande, finalement. Je regarde ce que je veux, quand je veux.
À la demande. Voilà, c'est ça qui a fondamentalement changé notre rapport aux séries ces dernières années. Et du coup, a permis d'être plus en lien avec sa propre temporalité, ses propres désirs aussi. Mais on se rend compte, les différentes enquêtes récentes, on se rend compte que quand même le mode de visionnage traditionnel, historique, persiste, perdure, et est encore majoritaire.
Selon les cultures, selon les pays, vous diriez ça, Marie Baracco, ou pas, puisqu'on parlait donc de ce visionnage à la demande qui a beaucoup changé, Marie Baracco.
Oui, enfin, selon les pays, ça évolue effectivement. Si, par exemple, on parle de l'Afrique, il y a une consommation sur les téléphones mobiles qui est très importante, qui est bridée par les problématiques de connexion. Mais dans tous les pays, en fait, les habitudes évoluent, comme venait de le dire votre invité. Moi, il y a quelque chose qui m'allait cette année, plus que les autres années, c'est que je me dis jusqu'où va-t-on aller. Je trouvais déjà qu'il y avait une disparité dans ce que les gens regardent. C'est-à-dire qu'avant, on regardait tous la même série, donc on parlait tous de la même chose quand on dînait ensemble. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, à part de très grosses marques et de très grosses séries comme Game of Thrones, par exemple, que tout le monde regarde, tout le monde a vu.
Sauf si on dîne avec des gens qui sont très très proches de vous culturellement, socialement.
Ben même pas.
Même pas. Tellement l'offre est variée, c'est ça.
Exactement. Donc c'est vrai que
entre journalistes de Télérama, on regarde tous les mêmes séries ou pas, par
alors,
exemple
non, sinon on ferait tous les mêmes articles et ça serait problématique. On se partage le travail, c'est ça aussi la nécessité aujourd'hui, c'est de partager. Mais enfin, il y a quand même des tendances, il y a des buzz, comme on dit en bon français, il y a des séries qui font parler plus que d'autres, mais c'est souvent extrêmement éphémère et c'est multiple. C'est-à-dire que moi, quand on me pose la question qu'on me pose le plus dans l'existence, avec quelle heure est-il, c'est quelle est la meilleure série à regarder en ce moment, et à chaque fois je réponds, mais ça dépend. Ouais. En fait, ça dépend de ce que vous aimez, de ce que vous voulez voir. Vous vous rendez compte que rien qu'aux États-Unis,
l'amour, la science-fiction,
et même les tonalités, c'est-à-dire il y a des séries qui sont plus cérébrales, d'autres qui sont plus dans l'action, et rien qu'aux États-Unis, on approche la barre des 450 séries par an, rien qu'aux États-Unis. Donc c'est impossible de même en voir 100. Enfin voilà, il faut donc choisir.
Clément Combe, on a évoqué le phénomène du binge-watching qui a été évoqué dans le témoignage, hein, et par plusieurs auditeurs également qui ont posté des messages. Donc vraiment ce visionnage en rafale, comme disent les Canadiens, hein, jusqu'à l'indigestion presque, hein, c'est vraiment... aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, le speed-watching. Vous pouvez nous expliquer exactement en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça change ?
Alors c'est le fait d'accélérer un peu la vitesse de visionnage d'une série. Donc c'est par le biais d'une option qu'on trouve sur de nombreux lecteurs vidéo comme VLC ou des lecteurs streaming, dont le plus connu est YouTube. Et donc le spectateur va augmenter la vitesse de lecture, non pas par 2 parce que ça serait beaucoup trop rapide, mais par 1,2, 1,3 par exemple. En sorte qu'un épisode qui va durer 45 minutes à vitesse normale, il va le regarder en 40 minutes environ. Et donc au bout d'une saison, on peut gagner une heure ou plus.
Ouais, j'ai même lu qu'on peut regarder un épisode de 52 minutes en 39 minutes. Mais là, ça doit quand même, ça change forcément la tonalité des voix et des tons et le jeu des comédiens.
Je suis accablé par ce genre de pratique.
Oui, alors ça altère certains aspects de l'épisode, mais on fait ça surtout quand c'est l'intrigue qui nous intéresse, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui globalement sont plutôt intéressées par les intrigues, ou concernant certaines séries, vont se focaliser sur l'intrigue, peu importe si la qualité des voix est altérée.
Ça change quoi dans la façon d'appréhender ces séries ?
C'est un rapport d'immersion. Ça va souvent avec le binge-watching. Hein. C'est la possibilité de s'immerger dans un temps plus ou moins long dans une fiction, ce qu'on ne peut pas faire avec un film de cinéma, y compris les plus grands, les plus longs films. Et donc le tout nous permet de bouffer de la série, bouffer de la fiction, de l'intrigue rapidement et de passer à autre chose aussi rapidement.
Là, on est dans le côté accro que dénonçait Pierre totalement.
Mais ça veut dire qu'on va s'orienter vers des séries avec des numéros, des épisodes de plus en plus courts ou pas d'ailleurs? Alors, pas forcément.
Ça, c'est une vérité de l'industrie, alors, qui est encore une fois multiple. Parce qu'il y a des séries maintenant qui sont, vous parlez de 52 minutes, mais les séries d'HBO et tout, c'est 1h, 1h10, parfois 1h15 par épisode. La notion de longueur de l'épisode n'a presque plus rien à voir avec le type d'histoire qu'on vous raconte. Pendant très longtemps, un drame, ça durait entre 42 minutes et 1 heure. Une comédie, ça durait entre 20 et 30 minutes. Aujourd'hui, on voit des drames de 30 minutes, on voit des comédies d'une heure, c'est plus rare, mais en tout cas, la notion de temporalité varie. Et en fait, ça sert à rien de regarder un épisode plus vite, parce que vous aurez encore d'autres choses à voir derrière. C'est-à-dire que c'est une spirale sans fin.
Et, là, vous essayez de convaincre les spectateurs?
Ah oui, non, mais pour moi, c'est un mépris absolu de l'œuvre. C'est comme quelqu'un qui lirait une page sur deux d'un roman. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens.
Si je peux intervenir, pardon.
Mais bien sûr.
Justement, j'allais faire cette référence au roman. On peut voir ça comme le voit Pierre Langlais. Effectivement, j'en partage pour partie cet avis. Mais on peut aussi voir ça comme une manière de davantage s'approprier l'œuvre qui est une série et un roman, on peut le lire en diagonale, on peut sauter des passages, on peut le lire un peu dans tous les sens, selon notamment le conseil de Daniel Pénac sur la manière dont on peut aussi s'affranchir de cette déférence vis-à-vis de l'œuvre. Et donc c'est aussi se permettre cette forme d'appropriation qu'on a aussi avec les romans, ce speedwatching.
Oui, je suis d'accord, c'est une façon de se réapproprier, mais c'est aussi quand même une façon de... Pour moi, c'est un manque de respect sur l'œuvre, voilà. Et je pense que c'est moins la conséquence de la réflexion que vous venez d'avoir, c'est-à-dire de « je me réapproprie, je regarde en diagonale, etc. », ce qui peut se faire plus de manière plus compréhensible avec des comédies, on regarderait les épisodes dans le désordre, ce genre de choses-là, qu'à mon avis, une forme de pression sociale, c'est-à-dire qu'il faut voir le plus vite possible pour être à la même heure que tout le monde pour pouvoir discuter.
Enfin, et pour du coup, pouvoir on discuter, quoi. Sauf que vous venez tous de nous dire qu'on ne peut plus discuter de séries puisque plus personne ne voit les mêmes.
Sauf sur Game of Thrones, The Handmaid's Tale, les grosses séries du moment, et là, il vaut mieux être à l'heure.
La question quand même, c'est sur ces phénomènes que vous décrivez, Clément Combe, donc de visionnage en rafale des nuits entières jusqu'à plus soif, et de voire même de speedwatching, c'est-à-dire de visionnage en vitesse accélérée, légèrement accélérée, mais quand même. Est-ce que les séries s'adaptent à la pratique ?
Alors, vaste question.
Dans la façon de repenser les scénarios, les histoires, les intrigues.
Évidemment, le fait de pouvoir, le DVD, le téléchargement, etc., a influencé, par exemple, la manière dont Netflix pense ses séries, les séries qu'elle produit, et la manière dont, par exemple, les récentes séries qu'elle a produites, elle les pense comme des unités, enfin une saison. Vraiment davantage comme une unité qu'elle va livrer ensuite, on dirait diffuser à la télévision, qu'elle va livrer ensuite par paquet de saisons, en sorte qu'on aura moins à faire à des épisodes qui se succèdent qu'à un tout qu'on peut regarder d'une traite. Donc là, elle pense ces séries au format binge-watching.
Ouais, parce que Marie Baracco, il faut quand même bien le préciser, et pas que pour les séries américaines d'ailleurs qui dominent le marché des séries, ce sont des investissements lourds, les séries coûtent cher, et ce sont d'abord des produits qui doivent être rentabilisés.
Oui, enfin, moi je le vois pas vraiment comme ça, mais moi je le vois plus comme des œuvres et comme un élément qui fait partie d'une culture, d'un pays. C'est aussi pour ça que quand on regarde les audiences d'un pays sur la série, les séries qui marchent le mieux sont les séries nationales. C'est-à-dire que c'est quand on raconte aux gens une histoire qui leur parle, qui leur ressemble, et que on on va le chercher sur des choses qui sont son quotidien quelque part. Et là où je suis pas hyper d'accord, c'est qu'il y a encore quand même beaucoup de diffuseurs traditionnels qui n'ont pas pris le pas du Netflix, etc. Certes, Netflix investit tellement de milliards d'euros dans le développement de nouvelles séries, mais finalement, ça impacte inconsciemment tout le monde. On repère en Europe, par exemple, qu'on a de plus en plus de mini-séries. C'est aussi pour répondre à ce développement de tellement de nombreuses séries qu'il faut les faire un peu plus courtes pour que les gens puissent les regarder et les savourer.
Voir un peu moins d'épisodes aussi.
Exactement.
Oui, c'est ça. Bah, c'est le principe même de la mini-série qui est bouclée, c'est-à-dire que vous avez 6, 8, 10 épisodes et on n'en parle plus, c'est fini. Et il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des anthologies, c'est-à-dire des séries qui continuent d'une année sur l'autre, mais à chaque année, on change d'histoire, on change de personnage et on reste dans une thématique. Et clairement, le feuilleton, alors c'est paradoxal à l'heure où les télévisions françaises s'y mettent de plus en plus sérieusement au feuilleton quotidien, mais le feuilleton, les séries qui durent éternellement 15, 16, 18, 20 ans, il y en a de moins en moins, et on a de plus en plus de séries qui sont plutôt des événements, comme disent les Américains, c'est-à-dire des acteurs très connus, gros budget, on fait 6, 8 épisodes, pliés, c'est emballé, comme ça on est sûr que les gens vont rester du début à la fin, plutôt que d'avoir une déperdition et d'avoir les gens qui au bout de 10, 15 épisodes, soit on est accro, comme vous dites, soit on se fatigue. Il y a une fatigue de la série télé, surtout à l'heure où la proposition est tellement grande. Et du coup, il faut garder le téléspectateur à tout prix.
Oui, la lassitude qui guette effectivement le business des séries. 7 milliards de voisins, pourquoi êtes-vous fan de séries? Et puis, quelle place les séries tiennent dans votre vie? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
On donne la parole à Charles qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Charles.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez des goûts très particuliers, vous savez bien ce que vous aimez aujourd'hui dans les séries, non? Je pense à force d'en visionner.
Effectivement, dans la série, comme je le disais tantôt, j'aime tout ce qui est mythologie.
Oui.
À l'instar, par exemple, de Game of Thrones. Mmh. Malheureusement, on attend impatiemment la suite. Mmh. Et entre-temps,
la dernière saison prévue en 2019, c'est ça? C'est là.
Voilà,
alors,
oui.
On disait dans l'émission il y a quelques minutes, Charles, qu'il y a tellement de séries que c'est difficile de se retrouver autour d'une bonne table et de discuter, et de visionner des séries en commun et de pouvoir en parler. Mais je crois quand même qu'en tout cas, parmi tous les messages que vous avez postés, vous les auditeurs, Game of Thrones, forcément la série la plus diffusée dans le monde, 173 pays, série américaine, évidemment. Celle-là, elle remporte franchement pas forcément les suffrages, mais en tout cas les expériences, toutes les expériences.
Effectivement, parce que tout y est compris dans cette série. Mmh. Tout y est compris.
Sexe, violence, pouvoir, religion, guerre
voilà,
autour du trône de fer.
Donc voilà, tout le monde se retrouve dans cette série. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas une série qui égale Game of Thrones. C'est vrai qu'on s'est essayé avec Viking. Viking, bon, mais c'est loin de Game of Thrones.
Mais alors, vous avez dit au standard que vous n'aimez pas tellement le côté... Enfin, vous aimez bien le côté un peu ancien des séries, sans trop de technologie.
Oui.
Et d'effets spéciaux.
Le côté un peu mythologie, un peu ancien. Voilà, un peu comme Versailles, par exemple. Mais bon, comme je disais, je n'ai pas aimé Versailles parce qu'au début, ça manque un peu de suspense.
Ah, d'accord. Mais pourquoi vous disiez sans technologie? Je ne comprends pas. Parce que Game of Thrones...
Dans l'histoire, je pense.
Oui, d'accord.
Ouais. Non, quand je dis sans technologie, il n'y a pas de voiture.
Ah oui, d'accord. Mais il y a bien des effets spéciaux, on est bien d'accord. Ouais.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
D'accord. Ouais, le côté un peu...
Oui, bah c'est il y a toute une branche. Alors c'est vrai que le coup de force de Game of Thrones, c'est d'être devenu un tel succès sur un genre qui a priori, alors qui avait fait ses preuves dans la littérature évidemment, l'heroic fantasy et c'est ce genre de récit qui se passe dans des passés moyenâgeux plus ou moins définis avec des monstres et des bêtes comme les dragons pour ne citer que. On se demandait si ça marcherait à la télé dans les années 90. On se souvient de Xena et de ce genre de série, mais c'était quand même très confidentiel et c'est devenu connu un succès immense. Quant aux séries historiques, vous en parliez avec Versailles, c'est un genre à part entière qui vraiment à travers le monde, surtout les Anglais sont très forts en séries historiques. On peut penser à Downton Abbey dans un passé moins lointain, qui évidemment
parce qu'il y a de l'intrigue
toujours...
universelle à l'intérieur finalement.
Oui, et puis parce que l'histoire, c'est si un des meilleurs moyens donc, d'être
pas
dans l'universalité.
À la
justement.
Culture de telle ou telle série, on est bien d'accord.
Bien sûr,
pour Downton Abbey, on peut aimer ça en venant d'un autre continent.
Et surtout en venant d'un autre continent, parce que c'est un peu exotique aussi de voir l'histoire d'un autre pays.
33 1 84 22 71 71. Merci à Charles de nous avoir appelé d'Abidjan. On donne la parole à Assia qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Assia.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue. Alors vous partagez une série en particulier avec votre fille. C'est donc une vraie complicité.
Exactement. Comme je l'ai dit, je n'étais pas très fan de la série avant.
Oui.
Mais comme ça fait un an que je suis consultante, donc je travaille à la maison.
Oui.
Et les vacances faisant, je me suis intéressée à ce qu'elle regardait.
Oui.
Et du coup, on est tombé sur la série 11, qui parle de football. Donc, elle est axée sur en fait, une intrigue dans une école de sport-études.
Oui.
Et on voit en même temps tout ce qui se passe dans les coulisses du football, avec les jeunes, les guet-apens, avec les concurrents, leur adresse et tout. Donc, tu vois aussi comment ces joueurs-là arrivent à vaincre leur propre ego pour gagner. L'esprit des valeurs, l'esprit d'équipe et tout. Et moi, en entreprise, je fais en même temps la relation. Je dis, effectivement, en entreprise, c'est important d'avoir ce genre de jeu de rôle. Parce que si tu n'es pas en même temps quelqu'un qui coopère, tu n'es pas obligé de... forcément, tu ne vas pas atteindre tes objectifs.
Oui.
Donc moi, j'arrive en même temps à faire des liens entre le sport, entre cette série et dans ma vie privée, ce qui se passe dans mon milieu.
C'est ça, entre le stade de foot et vous en tant que consultante. C'est une série argentine, je crois. Moi, je ne connaissais pas.
Oui, voilà.
Mexicaine,
non,
en tout cas, c'est une série...
Argentine.
D'accord.
Oui.
Merci Assia. Et puis bravo pour cette nouvelle passion. Donc ça vous permet en tout cas de contrôler ce que regarde votre fille. C'est peut-être pas bête. Hein.
Exactement. C'est bien ça.
Il y avait une arrière-pensée.
Mais ça dit aussi que la série télé n'est pas seulement quelque chose qui se regarde seul. Il y a plein de gens qui regardent des séries à plusieurs. Il y a même des séries qu'on ne regarde qu'à plusieurs. C'est-à-dire que ça va être ma série à ma femme et moi ou ma série à moi. Et on partage quelque chose peut-être de manière plus forte encore qu'au cinéma où c'est une expérience du moment. Mais là, la série télé, on se retrouve une fois par semaine ensemble pour partager quelque chose. Et c'est tout sauf une forme de lobotomie, comme certains peuvent le dire.
Marie Baracco, c'est davantage un phénomène qu'on pourrait retrouver d'ailleurs sur le continent africain ou pas, le fait de regarder collectivement des séries plusieurs.
Historiquement, oui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui descendaient, qui se retrouvaient dans des lieux communs, sur une télévision commune pour regarder leurs séries préférées. Du coup, il y avait quelque chose de très collectif qui est resté un peu dans les mœurs. Mais c'est vrai qu'on l'a chez nous aussi. Je pense qu'il y a deux pratiques effectivement qui se sont en parallèle, celle de la consommation effrénée la nuit en solitaire et puis le côté rendez-vous.
Et les festivals de séries prouvent bien qu'il y a un intérêt pour la consommation ensemble, puisque c'est par définition même l'endroit où on s'assoit dans une salle de cinéma pour regarder une série ensemble.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Makodou nous appelle de Kaolack au Sénégal. Bonjour Makodou.
Bonjour madame.
Vous êtes un auditeur en colère contre les séries, je crois.
Les telenovelas, moi, personnellement, je ne les aime pas.
Ah oui, les telenovelas.
Oui, j'ai deux anecdotes à vous raconter.
Oui, on vous écoute, hein, vous êtes en direct, Makodou.
Ouais, il y a une de mes voisines qui s'est fiquée sa bonbonne de gaz déposée devant sa cuisine. Parce qu'elle regardait les telenovelas. Et pourtant, la marmite était déposée sur le feu.
Attendez, votre voisine s'est fait voler sa bonbonne de gaz pendant qu'elle regardait une série, une telenovelas ?
Effectivement.
Ah oui, donc il y a quelqu'un qui est rentré, qui a coupé la bonbonne de gaz pendant que le déjeuner cuisait.
Effectivement.
Elle était très absorbée, en effet. D'accord, Makodou.
Et puis moi, personnellement, j'aime pas parce que je remarque que ma femme fait tout pour finir son film de 19h30 avant de nous servir à manger.
Donc...
Pourtant, tout le monde sait qu'au Sénégal, on mange autour du bol.
Mm-hmm. Et donc, vous attendez donc.
Oui, il faut qu'on attende qu'elle finisse d'abord de regarder son film avant de nous servir à manger.
Oui. Et qu'est-ce qu'elle regarde, votre femme, pour que vous dîniez si tard ?
Les telenovelas.
Oui, non mais d'accord, mais quel genre de telenovelas ? Vous repérez
vraiment,
vaguement
moi,
le physique des comédiens, des telenovelas brésiliennes, indiennes ?
Ce qui est sur le film passe entre 19h30 et 20h, heure locale de chez nous.
On va se rencontrer, on va se renseigner sur le programme local. Il y a aussi des telenovelas nigérianes hein, qui sont assez populaires sur le continent subsaharien francophone. Marie Baracco, vous pouvez nous renseigner là-dessus.
Oui, alors nous, on a décidé effectivement de développer un événement sur le continent africain pour stimuler et aider, contribuer à donner des clés pour une production plus locale, parce qu'effectivement, les telenovelas sud-américaines sont très présentes en Afrique parce qu'elles n'étaient pas chères et qu'il y en avait beaucoup. Et aujourd'hui, on a toute une génération de créateurs qui ont envie de raconter des histoires et un public qui a très envie d'histoires qui lui ressemblent davantage.
Eh bien, justement, on va donner la parole, puisque chaque lundi, on a un portrait, c'est l'Afrique qui gagne, on va donner la parole à une productrice de séries africaines. Et ça, c'est très très mauvais pour Dîner à l'heure, pour Makodou, qui nous appelait, qu'on remercie, qui nous appelait en direct de Kaolack.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
On va donner la parole à Angela Akereburu, qui a 41 ans, elle est togolaise, productrice de séries à succès. Après des études en Guadeloupe, aux États-Unis, puis en France, elle rentre à Lomé il y a 9 ans pour créer la société de production Yobo Studio, aux côtés de son mari. Raphaël Constant l'a rencontrée en juin dernier, lors de sa venue justement pour le festival Série Série à Fontainebleau, en région parisienne.
Alors on a commencé avec des formats courts. Ce qu'on voulait, c'était montrer une Afrique différente, parce que j'en avais marre, moi, de regarder soit des télénovelas, donc des séries brésiliennes, soit des séries américaines, mais il n'y avait pas de séries qui nous ressemblaient, de séries où on voyait des gens comme nous, pas forcément des gens affamés, pas forcément des pays en guerre, mais le quotidien d'Africains moyens. Donc on a commencé avec une série qui s'appelle Zem, c'est un format court sur des conducteurs de taxi-moto, les émigrants. Et puis ensuite, on est allé sur un couple d'Africains ultra-urbains. Et puis récemment, on est allé sur une série médicale, on appelle le Grey's Anatomy africain.
Bon, faites-lui immédiatement une goutte épaisse. Ensuite, je veux un bilan hépatique, une protéinurie uricémie, un bilan de coagulation, NFS et plaquettes.
Mon métier en tant que fabricante de contenu, c'est de faire passer des messages. Donc ma question, c'était qu'est-ce que je peux faire comme série où je suis sûre que je vais intéresser tout le monde. La série médicale, c'est quelque chose qui marche partout. Donc les Dr House, les Urgences, et j'en oublie, c'est vraiment...
Qui sont des séries américaines.
Bon, il y a H en France. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça intéresse les gens? Il faut qu'il y ait de l'amour. Voilà comment Hospitalité est née, donc un duo de médecins. Elle pratique la médecine conventionnelle occidentale et puis lui pratique la médecine traditionnelle africaine et il collabore au sein d'une clinique. Pour moi, l'Afrique, c'est ça. On garde nos traditions et on fait rentrer des choses très modernes. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers cette série. Je montre donc de l'existant, mais je montre aussi où j'aimerais qu'on aille.
Bonjour, comment vous appelez-vous?
Sylvie Lamy, je suis son mari Eugène.
Je suis le docteur Diallo. Madame Lamy, qu'est-ce qui vous arrive?
Comment ça? Vous ne voyez pas qu'elle se sent mal?
Monsieur
Lamy.
Monsieur Lamy, votre épouse est sourde-muette? Non? Eh bien, elle peut répondre elle-même à mes questions.
Le travail que j'aime faire, c'est surtout sur les femmes. La femme africaine qui peut être éteinte, on lui demande de se taire. Et je montre aux jeunes filles, à travers ma série, regardez, ce personnage-là, elle s'exprime, elle peut réussir, elle peut choisir. Elle n'est pas obligée d'avoir des perruques, elle peut tout simplement aussi avoir des cheveux naturels, mais c'est un choix. Elle n'est pas obligée de rester à la maison, de s'occuper des enfants, elle peut aussi être médecin. Et pourquoi est-ce que je pense que ça va avoir de l'incidence? C'est que les petites fille, et la première c'est la mienne, qui regarde mes séries, eh bien ça leur donne un modèle inspirant.
Avec un trait humoristique, parce que finalement toutes vos séries ont en toile de fond l'humour.
Alors on se dit que le quotidien est assez difficile comme ça. Alors je me dis oui, je vais parler de choses difficiles, mais on va mettre un petit peu d'humour, parce que même si on souffre, il y a toujours un moment où on va rigoler. C'est pour ça que j'aime bien mettre ça dans mes histoires.
Quand tu te vois là, sapé comme un dindon en plus. Et quand tu la vois, elle, splendide comme elle est, hein? Est-ce qu'elle ressemble à une troisième épouse? Non mais attends, va plutôt t'occuper de tes nombreux enfants, hein? Ça sera mieux pour toi. Attends, mais pour qui tu te prends toi? Hein? Tu penses que c'est avec ton petit commerce là que tu vas répondre aux attentes d'une femme comme elle? Eh oh, mon commerce il marche très bien, ne l'écoute pas.
Est-ce que ces histoires sont des histoires que les Africains veulent voir?
Moi je pense que les Africains ils veulent voir des histoires qui leur ressemblent. Des histoires qui font rêver aussi. C'est ce qu'on peut faire, nous, avec nos peu de moyens que nous avons de créatifs, c'est de montrer une Afrique dont on rêve. Et les jeunes, en regardant ça, ils vont se dire, bah, c'est possible, j'ai vu à la télé, puisqu'ils croient à tout ce qui se passe à la télé.
quelle vision vous avez du paysage audiovisuel ou culturel africain qui voit depuis quelque temps des productions émerger ?
Une caméra, elle a le même prix en Occident et en Afrique. Pourquoi, à ce moment-là, on considère que, comme l'Afrique est moins chère, on doit faire des productions moins chères et on est surpris que ces productions-là ne sortent pas du continent. On a beaucoup de choses à dire. On n'a rien à envier aux Brésiliens, aux Occidentaux, aux Asiatiques. Il nous manque juste des moyens. Il faudrait juste que nos gouvernements comprennent qu'aujourd'hui, l'audiovisuel est un outil fort qui leur permettrait de communiquer autrement qu'en faisant de la propagande. À partir du moment où on comprendra ça, on ira très loin.
Alors, comment trouver une voie d'expression culturelle propre tout en étant rentable ?
Il y a plusieurs façons de travailler. Il y a des producteurs qui vont financer sur fonds propres leur contenu. Il y en a d'autres, dont je fais partie, qui ne produisent pas tant qu'ils n'ont pas financé. Et dans le circuit, il va y avoir donc des chaînes publiques, des chaînes privées. En l'occurrence, là, il y a deux chaînes panafricaines qui achètent, TV5 Monde et le groupe Canal+. Donc ces gens-là, malheureusement, ils ne peuvent pas acheter toute la production francophone subsaharienne. Malheureusement pour nous. Donc, nous avons donc le fonds de l'Organisation internationale de la francophonie qui fait comme il peut pour financer les projets auxquels il croit. On peut avoir aussi accès à du placement de produits. Une boîte de production comme la mienne en Afrique, pour être rentable, elle fait de la pub. Mais tout ça, on va dire, ça couvre quoi, 30% de la production. Je ne fais pas ce métier, moi, pour être rentable. Je fais ce métier parce que je suis passionnée et parce que j'ai envie que les Occidentaux, ils voient aussi des séries africaines.
Ça veut dire qu'au sein de Yobo Studio, vos séries ne sont pas encore rentables ?
Non, elles ne sont pas encore rentables. Zem est rentable, c'est la série que nous avons produite il y a 10 ans. Elle est rentable maintenant.
Vous parlez des femmes et de la place des femmes, et notamment des femmes entrepreneurs aussi dans le domaine culturel africain. Comment vous avez réussi à vous imposer ?
Ah, alors ça, ça a été une chose. Je suis dans un pays misogyne. Je suis désolée, Togolais, vous m'entendez, mais c'est vrai. Si toi, tu es une femme, tu es forcément une comédienne, mais tu peux pas diriger des hommes. Donc au début, c'était difficile parce qu'en plus, mon mari est français, homme blanc, on travaille ensemble. Donc quand on réalisait ensemble, il m'est arrivé, je me rappelle deux fois, des comédiens qui, quand je dirigeais, qui me regardaient, qui regardaient mon mari à côté et qui lui demandaient, ben, monsieur, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est lui qui répondait, non mais c'est elle qui signe les chèques, c'est elle qui est responsable juridique de l'entreprise, moi je n'ai mon nom nulle part, donc si tu fais pas ce qu'elle demande, à un moment, comment te dire, tu reviendras pas ici. Je pense qu'il m'a fallu 1 à 2 ans pour bien m'imposer, et puis, j'adore ça, hein, c'était une révélation, c'est mon truc, je suis faite pour ça.
Angela Kereburu, c'est un studio, enfin c'est un sujet de série à elle seule finalement. Comment une femme productrice de série peut s'imposer sur un paysage africain, masculin, avec les difficultés financières, Marie Baracco ?
Un grand personnage, Angela, qui effectivement était présente et à Fontainebleau et à Ouaga, qui a une énergie, une volonté et un talent impressionnant. Donc il en faut.
Il y a vraiment des talents qui émergent maintenant sur le continent africain, y compris francophone, même si c'est vrai que les séries sont dominées quand même par la production anglophone sur le continent africain.
Il y a énormément de talents. Moi, j'ai été bluffée. C'est vraiment un continent que je connaissais très mal quand j'y suis allée. On y est allée parce qu'ils sont venus nous chercher en nous disant, voilà, on a besoin de vous pour nous aider à développer une production qui existe, qui émerge et qui puisse traverser les frontières. C'est impressionnant le nombre de talents, de volontés, d'histoires à raconter qu'il y a sur ce continent. Et il faut effectivement, comme le disait Angela, qu'il y ait maintenant une prise de conscience politique parce qu'on ne peut pas développer un pan culturel comme celui de visuel sans une volonté politique forte.
La série qui cartonne à l'heure actuelle, justement, Makodou nous disait que sa femme regardait les telenovelas. Donc, on a compris que ce n'était pas forcément des séries africaines, mais il y a C'est la vie.
C'est la vie, au
Sénégal.
Une super série, effectivement.
Qui passe dans plusieurs pays.
Qui passe dans plein de pays, qui circule donc sur tout le continent et qui a pu également. C'est un modèle très intéressant parce que c'est une série qui parle aussi de santé. Et du coup, le producteur, qui est très malin, a réussi à aller chercher des sous pour financer sa série ailleurs.
Ouais. Clément Combes, vous qui analysez les pratiques des téléspectateurs, est-ce que les séries à message, il y a une demande aujourd'hui pour les séries à message?
Alors là, je suis bien embêté pour vous répondre parce que
c'est à la fois quelque chose qui... Enfin, c'est pas le type de question que nous, sociologues, posons à nos enquêtés, et ni même le type de questions qu'on pose à travers nos questionnaires auprès de centaines, de milliers de Français. Donc les séries à messages, là, je sèche un peu.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une série, c'est de la culture, et donc ça peut être un moyen de propagande. Donc, et c'est là où les Américains sont extrêmement forts, parce que tous les pays du monde regardent des séries américaines.
Ce qui était dit, qui est très bien dit dans le reportage, dans le portrait, c'était que cette capacité qu'ont les séries à orienter la société, c'est un peu fort. On peut pas dire qu'une série va violemment changer les mœurs. Ça serait lui donner beaucoup trop de pouvoir. Mais en revanche, elle a moyen de mettre en lumière certaines choses et donc de faire réfléchir et de provoquer le débat. Elles s'inscrivent en général dans un débat social et elles participent de ce débat-là. Et ça, oui, les gens, je pense, aiment ce genre de discussion.
Un message justement de Paul à Conakry qui va dans ce sens-là. J'aime la série Raymond, série française d'animation. Le héros Reddington nous décrypte comment avoir un pas d'avance sur les autres, sur les amis, sur les personnes avec lesquelles on travaille. C'est devenu une règle chez moi maintenant, manipuler ou endormir les consciences. Et puis aussi Bienvenue, qui nous écrit du Sud Kivu en RDC, qui nous dit « Moi j'aime Prison Break parce que ce genre de série peut nous aider à nous évader des prisons où l'on peut être jeté brutalement en tant qu'étudiant. » Mais oui.
Le Michael Scofield, le héros de Prison Break, est quand même extrêmement malin. Hein. Il faut être très très fort pour faire ce qu'il fait.
Alors j'allais vous poser la question à tous les trois. Pierre Langlais, quels sont les secrets d'une bonne série, finalement, pour vous?
S'il y avait un secret, elle serait toute bonne. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, le plus important, c'est les personnages. Si on regarde une série, si on continue de la regarder, c'est parce que ces personnages nous ont touchés, parce qu'ils ont quelquefois quelque chose d'à la fois universel et intime, et que quand on regarde le fameux processus d'identification est clé. Mais identification, ça ne veut pas dire que tous les personnages me ressemblent.
Bien
ça
sûr.
Veut dire que les personnages me font penser à quelque chose qui me touche intimement.
Sur le
plan intellectuel. Pour moi, c'est le point de départ.
Clément Combe, pour vous?
Mais je suis assez d'accord. Ce qui est souvent mis en avant par les enquêtés, ce sont les personnages. Et ce qui a permis aussi, sans doute, aux séries d'avoir l'essor qu'on leur connaît, c'est l'apparition des séries collectives de personnages à partir des années 80. Donc il y a toute une palette d'identités, de personnages auxquels on peut plus ou moins s'identifier, être en accord, en désaccord.
Et donc c'est ça, en général c'est fabriqué, produit avec cette arrière-pensée-là d'ailleurs, avec ces processus d'identification. Oui. Bon, oui, on pourrait aussi dire la même chose sur la littérature, hein, d'une certaine manière. Et pour vous, Marie Baracco?
Oui, c'est l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de raconter, comment on le raconte. Donc ça rejoint les personnages, mais ça va un peu au-delà de ça.
Comment vous appréhendez la fin? Quelles sont les séries les plus attendues pour la rentrée 2018?
Alors, il y en a deux qui d'ailleurs se recroisent, qui sont... alors, c'est des séries américaines, pour moi, c'est ça le problème. Après, je peux vous parler de françaises aussi. Il y a Ad Vitam qui arrive sur Arte, qui est une très belle réussite, qui est une série d'anticipation, comme on dit, dans un monde où on ne meurt plus, où on ne vieillit plus. Et ça raconte une histoire de deuil, d'acceptation, d'amour, du temps qui passe, enfin, de plein de très belles choses. Et les Américains ont deux séries qui sont aussi, d'ailleurs, des séries sur ces réflexions. J'ai l'impression que ça va être une saison où on parle à la fois de douleur, de deuil, de choses difficiles, mais avec cette envie de s'en sortir. C'est très dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on constate le monde va mal, il y a de la douleur, mais on a envie de s'en sortir.
Ouais, le phénomène universel de la résilience.
Ouais, voilà. Tout ça, je pense, ça sera au centre de cette rentrée.
Clément, comment vous voulez ajouter quelque chose juste avant qu'on se quitte? Il nous reste quelques secondes.
Non, alors sur l'actualité toute fraîche des séries, moi c'est pas du tout mon domaine, donc je serais bien incapable de vous donner des conseils.
Et vous, Marie Baracco? Non, mais je croyais que vous vouliez intervenir, c'est pour ça.
Moi,
Marie,
j'attends avec impatience la série de Thomas Lilti sur l'hôpital.
Hippocrate.
Oui, merci à tous les trois. Clément Combe, vous étiez en duplex en liaison avec nous à Grenoble. Vous êtes sociologue des séries. Marie Baracco pour le festival Série. Et merci à vous, Pierre Langlais, journaliste spécialisé dans les séries à l'hebdomadaire Télérama. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azéroal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter évidemment toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio et bien sûr en podcast. Demain, 7 milliards de voisins. On parlera des startups africaines.